Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Le Réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine dans les petits matins de France Culture. L'écoute en ligne ou le podcast de l'émission sont disponibles sur l'application de Radio France ou en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Et tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Thomas Balmès à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui de son film Sing Me a Song. C'est un documentaire tourné au pays du bonheur. Cette Suisse asiatique verdoyante coincée entre la Chine et l'Inde, le Bhoutan, ou comment l'arrivée d'Internet et des smartphones perturbe les jeunes moines. Un film tout à la fois instructif, poétique et philosophique.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Thomas Balmès.
Bonjour Toufik.
Dans un de vos précédents documentaires, Happiness, distingué en 2014 par le prix du meilleur documentaire au festival de Sundance, vous aviez filmé l'arrivée de la télévision au Bhoutan et déjà on faisait connaissance avec le jeune Pyongki. J'espère que je prononce bien son nom.
Tout à fait, Pyongki.
Voilà, Pyongki qui va être confié par sa mère à un monastère pour y faire son éducation de futur moine. Quelques années plus tard, vous retrouvez Pyongki dans un monastère perdu au cœur des montagnes. Entre-temps, les téléphones portables et Internet sont arrivés dans ce lieu isolé et l'adolescent Pyongki a beaucoup de mal à se concentrer dans sa formation spirituelle. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. C'est l'histoire du film, de votre film documentaire Sing Me a Song qui sort aujourd'hui, on va en parler. Mais d'abord, racontez-nous votre histoire avec le Bhoutan, Thomas Balmès. Par quel chemin et pour quelle raison êtes-vous arrivé dans ce bout du monde niché dans les chaînes de l'Himalaya ?
Eh bien, en fait, ce qui m'a attiré au Bhoutan, c'est le fait que le roi n'y avait autorisé aucun écran, ni aucune connexion avec le reste du monde, quasiment jusqu'en 98. Donc, après avoir longuement réfléchi à où faire un film sur cette addiction aux écrans, dont moi-même j'étais un témoin auprès de mes propres enfants, et je fais souvent des films qui me concernent de très près.
Même s'il faut aller au bout du monde.
Voilà. Et après avoir hésité à le faire aux États-Unis, qui sont parmi les plus grands consommateurs d'écran depuis toujours, je me suis dit que ce serait plus intéressant de suivre un processus et de trouver un endroit où il n'y avait pas d'écran et où les écrans allaient arriver. Et il n'y en a pas tellement. Et donc le Bhoutan ayant été le dernier en 98, a très 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 vite été dans une addiction complète, à part quelques petits villages qui avaient été épargnés, et Laya, où j'ai tourné mon film, a été un des derniers endroits, si ce n'est le dernier endroit au Bhoutan, à voir arriver l'électricité, la route et enfin la télévision. Puisque il était tellement éloigné du reste du pays, il fallait avant 3-4 jours de marche pour l'atteindre. Donc ils ont été les derniers touchés et donc j'en ai profité de cette petite poche qui est encore épargnée pour poursuivre la totalité du processus sur une dizaine d'années.
Comment avez-vous été reçu par ces villageois ?
Écoutez, extrêmement bien. Je leur ai montré un peu ce que je faisais. Et tout de suite, en fait, je suis arrivé dans ce village après plusieurs jours de marche. Chacun était chez soi, occupé à s'occuper des yaks ou d'autres, à travailler dans les champs. Et il y avait un enfant que je voyais faire des roues partout, tourner, virevolter. Et on ne voyait que lui quasiment dans le village. Donc j'ai commencé à discuter avec lui. Et quand il m'a appris qu'il n'avait jamais quitté son village, qu'il n'avait jamais vu une voiture, qu'il n'avait jamais été à la ville, j'ai trouvé qu'il pouvait peut-être incarner mon film.
Et c'est Pyongki.
Et c'est Pyongki, voilà. Donc je devais être dans le village depuis quelques heures, que tout de suite on s'est rencontrés, et tout de suite on a discuté. Et le fait qu'il rentre au monastère, le fait qu'il soit dans toute cette dynamique m'intéressait. Moi je cherche toujours les premières fois. Je m'intéresse au processus et avant, pendant, après. Et donc avec lui j'avais la possibilité d'avoir un avant l'arrivée de ces écrans et les conséquences. Et le film original, en fait, est un peu ce que je devais faire avec Happiness, c'est un peu Sing Me a Song. Mais il y a eu des tels éboulements, des telles catastrophes climatiques qui se sont abattues sur le Bhoutan pendant plusieurs années que les travaux ont été retardés. Et du coup, Happiness finit avec l'arrivée de la télévision. Mais le film original que je voulais faire, en fait, c'est Sing Me a Song. C'était les effets de ces écrans.
Et les villageois du Bhoutan savaient que vous vouliez parler de cette addiction aux écrans?
Alors, ils savaient que je voulais parler des écrans et de l'effet qu'allaient avoir les écrans sur leur communauté. Avant même que l'électricité n'arrive, il faut savoir que la moitié du village avait vendu la quasi-totalité de leur yak pour s'acheter des télévisions, pour être prêt le jour où l'électricité arrive à pouvoir regarder la première seconde des images. Il y avait une telle curiosité et un tel désir de ces images qui a été balayé en quelques mois. Et la télé est devenue complètement obsolète dès qu'ils ont eu accès aux smartphones. Ça, c'est très impressionnant comment on peut pas lutter entre la télévision et les smartphones. Évidemment, l'addiction et toutes les applications qui sont liées aux smartphones rendent la télévision extrêmement vite obsolète pour surtout sur ces jeunes populations. Et donc, ils sont arrivés, je dirais, en quelques mois à exactement la même situation que nous. Et la même addiction, parce que moi je dis toujours que c'est pas du tout un film sur le Bhoutan au bout du compte, parce que...
Même si vous filmez vraiment ce village, voilà. Vous prenez le temps.
C'est aussi un film sur le Bhoutan, évidemment, ouais. mais c'est surtout un film sur nous, sur notre propre rapport à ces écrans que j'ai voulu faire, au bout du compte. C'est un film, un miroir en tout cas, et c'est un peu ce que je fais depuis 25 ans, c'est d'aller très très loin pour parler de nous.
Vous avez effectivement une carrière de réalisateur, de documentariste. C'est venu d'où cette envie de témoigner des époques qui changent? Parce que vous êtes le témoin des changements du 21e siècle.
Mais je dis toujours, moi je suis né un peu dans une famille de 68ards qui m'ont interdit de les appeler papa, maman, c'était bourgeois, qui ont essayé de couper tout lien, qui ont essayé de m'élever en dehors de tout milieu socioculturel. Et donc je pense que j'ai recherché un peu... des lieux où ces traditions et les liens étaient extrêmement forts et chaque fois dans l'impact de l'Occident sur leur société. Donc ça a pu être aller voir des guerriers Maasai qu'on avait envoyés comme casque bleu en Bosnie sans leur expliquer quoi que ce soit et qui se sont retrouvés en pleine guerre à rien comprendre de ce qui leur arrivait et j'ai fait parler ensuite sur leur compréhension de cette guerre. J'ai pu aller en Inde suivre des hindous au moment de la crise de la vache folle qui voulaient récupérer toutes les vaches malades d'Angleterre et les accueillir dans des hôpitaux parce que pour eux chaque vache contient toutes les divinités dont on tuait une.
C'est sacré, bien sûr.
Voilà, c'est sacré. J'ai fait un film sur l'évangélisation d'une tribu en Papouasie. Je dirais que je fais quasiment toujours je tourne autour de la même problématique et je fais quasiment toujours le même film mais avec différents thèmes.
Exactement comme vous avez fait avec Sing Me a Song, c'est-à-dire être en immersion, éviter toutes sortes de commentaires.
J'ai jamais mis aucun commentaire, c'est sûr et certain. Au tout début, lors de mes premiers films, je faisais plus d'interviews. Et petit à petit, j'ai totalement abandonné les interviews. Et d'ailleurs, Sing Me a Song, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Il y a quelques interviews au début. Mais pour moi, on dépasse le concept de l'interview tellement la manière dont il parle et de la poésie à l'état pur, parce qu'il y a une espèce d'innocence dans sa manière de répondre à la question. Et je trouvais ça indispensable pour situer d'où il venait. On allait le retrouver après dans un traitement.
Vous le saviez que vous alliez le retrouver des années plus tard, Pionki?
Non. Pas du tout. Non, quand j'ai commencé mon film, je pensais faire le film et que...
Définitivement, 2014.
Je pensais pas du tout y revenir. Et c'est vraiment... j'ai travaillé sur d'autres projets, je suis aux États-Unis, j'ai fait tout un tas de choses. Et à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'y retourner. Et quand je suis retourné au Bhoutan pour voir ce qu'il en était, après les avoir quittés allumant la première fois la télévision, le premier plan que j'ai vu, c'est le plan du film où on les voit tous en train de prier et en même temps en train de jouer leur smartphone. C'est là où je me suis dit, ça vaut vraiment le coup peut-être de faire un deuxième film.
Cette image, vous l'avez vue comment?
Je suis rentré dans le monastère, j'ai vu les moines qui étaient en train de prier et je m'approche d'eux et je me rends compte qu'en même temps qu'ils prient, ils sont tous avec un smartphone.
L'histoire de Pionki, l'adolescent moine, qui préfère suivre donc une chanteuse sur son smartphone plutôt que d'apprendre les textes religieux. On pourrait résumer Sing Me a Song comme ça, mais ça va au-delà de la vie de cet adolescent. C'est aussi de se poser la question de la mondialisation. Mais vous-même, au milieu de ces villageois, est-ce que vous aviez peur ou vous appréhendiez d'être moraliste? Parce que vous veniez quand même avec une idée, de dire que toutes ces addictions numériques polluent notre quotidien. Thomas Balmès.
Je crois que c'est la première fois de tous les films que j'ai réalisés où j'ai effectivement une opinion aussi tranchée sur le sujet. Et je pense qu'effectivement, cette addiction, même si vous parlez aujourd'hui à la plupart des Bhoutanais qui vont vous dire c'est extraordinaire, ça nous permet d'être en contact avec notre famille, ça nous permet d'être informés sur le monde, les dégâts que le pays a connus en quelques années et la situation qu'on connaît aujourd'hui...
Mais c'est vraiment au numérique ?
Ben, je vous renverrai sur des articles qui ont été écrits dans la presse anglo-saxonne surtout, qui s'intéressent plus aux boutons que nous, mais qui vraiment décrivent très très bien des vrais problèmes de société qui sont nés avec l'arrivée de ces écrans.
Par exemple.
De violences domestiques, de drogue, d'addiction qui font que les enfants n'allaient même plus à l'école et qui restaient toute la journée devant ces écrans. Mais je dirais des choses assez proches de ce qu'on peut trouver chez nous en termes de il y a tout un tas d'études qui sortent de plus en plus. Comme quoi l'addiction à ces écrans empêche l'empathie de se développer. Et c'est très très lié. Mais c'est que un des symptômes, mais c'est aussi ce rapport à la consommation qui pousse d'ailleurs cette jeune fille à quitter sa fille, à l'abandonner pour aller dans les pays du Moyen-Orient. C'est des choses qui n'existaient pas avant l'arrivée de ces écrans. C'est-à-dire que parallèlement à l'arrivée de ces écrans, il y a un besoin de consommation dans tous les sens du terme. Besoin de consommation de ces jeux, de se divertir et une disparition complète de la capacité de se concentrer. Moi, Pianchi, je l'ai connu, voilà, il pouvait passer ses journées malgré tout à lire, à étudier, etc. Ça n'arrive plus jamais. Et donc ça a pris... je crois qu'en moyenne, ils sont passés de rien au plus grand consommateur d'écran de toute l'Asie et ils sont 13h30 par jour en moyenne, les adolescents au bouton devant leur écran. Donc ça prend la place sur tout le reste.
Thomas Balmès, dans votre film « Sigmi un song », donc vous le disiez, vous filmez les prières, jusqu'aux prières, les enseignements, les rituels quotidiens des moines vont entrer en concurrence avec les nouvelles addictions numériques, internet, réseaux sociaux. Mais là, par exemple, quand on voit l'adolescent Pianchi tomber amoureux de cette chanteuse qu'il est en train de suivre via son portable, on est presque ému et content pour lui qu'il ait aussi droit aussi à cette vie amoureuse.
Mais exactement de la même manière que je pense qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui passent leur temps sur Tinder ou sur tous les réseaux sociaux, enfin sur toutes les applications comme ça qui permettent des sites de rencontres, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de déceptions. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement universel. J'ai montré le film à Toronto il y a quelques mois et plusieurs femmes sont venues vers moi en me disant « Mais votre film est tellement fort, c'est tellement la réalité sur ce que je vis tous les jours, la déception amoureuse que je subis en rencontrant tous ces hommes que je rencontre. » Donc c'est un autre aspect de ça, c'est la réalité et ce qu'on s'imagine que la réalité, et comme on le voit dans le film, c'est souvent deux choses totalement différentes.
Mais vous filmez le Bhoutan comme si c'était le dernier endroit qui était épargné par cette révolution numérique. Et
c'est le cas, c'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment replonger. Enfin, il y a très 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 peu de temps, encore début 2000, vous alliez dans les rues du Bhoutan, tout le monde était habillé de manière ultra traditionnelle. Il y avait une espèce d'harmonie. Il n'y avait pas de prison. Les prisons ont commencé à se développer après l'arrivée des écrans, quand vous me demandiez si ça avait eu des effets négatifs, il n'y avait pas la moindre prison. Donc c'est pour vous dire à quel point on peut vraiment voir en un temps record comment une société peut se partir en déliquescence. Et donc voilà. Maintenant, je dis toujours le film. Ils sont arrivés au même niveau que nous, mais moi je retrouve exactement les mêmes situations quand je rentre chez moi. J'ai mes garçons qui ont 13 et 16 ans, je les vois très sagement dans leur chambre en train de lire un livre, je m'approche un peu et je me rends compte que derrière le livre, il y a un smartphone et qui est bien caché pour que je ne le vois pas quand je...
Pourquoi vous l'interdisez à vos enfants en tant qu'enfant de 68 heures? C'est le comble, Thomas Balmès.
Écoutez, c'est pas que je l'interdis, c'est que quand je vois mon fils aîné qui faisait de la sculpture, qui faisait du saxophone, qui faisait tout un tas d'activités et qui abandonner la totalité de ses activités pour ne faire que des écrans, je me dis qu'il y a un problème quand même.
Comment vous avez fait pour filmer ces villageois? Est-ce que vous êtes resté longtemps? Est-ce que votre caméra était près d'eux?
Très près d'eux.
Moi, donc ils savaient qu'il y avait votre dispositif.
Ah, complètement. Ouais. Dès le début, je suis très très près d'eux. Par contre, je suis même avec une énorme caméra. Je suis pas du tout avec une toute petite caméra en essayant de me faire oublier. Simplement, quand vous suivez quelqu'un sur 10 années. Et que vous y allez des dizaines de fois, passer plusieurs semaines, au bout d'un moment, non seulement vos personnages principaux, mais même les secondaires ont tendance complètement à vous oublier et vous êtes un peu transparent.
Et comment ils ont accueilli cette caméra? Parce que vous, qui parlez de l'introduction de cette culture numérique dans le bouton, vous êtes venu vous-même avec une caméra, avec une envie de filmer, de...
Mais moi, je n'ai rien contre les images en général. Ouais. Moi, je suis un grand cinéphile et je pense qu'il y a des choses extraordinaires. C'est juste en termes de fréquence, en termes de ce qu'on en fait et la place que ça prend dans sa vie. Donc, il ne s'agit pas de bannir. Moi-même, j'ai un téléphone et j'essaie de mesurer le nombre d'heures que je passe dessus. Mais par exemple, c'est très intéressant, encore une fois, Pianchi a compris, après avoir été interrogé par tout un tas de journalistes dans les festivals où il m'a accompagné, qu'il y avait un problème quand même et que en gros tout le monde lui disait mais c'est pas bien, et donc il m'a dit bon, je vais continuer à me servir de mon téléphone mais j'essaie d'en faire des choses plus intéressantes, et donc il m'envoie maintenant régulièrement des vidéos et depuis quelques mois il met en scène tous ces jeunes collègues du monastère, une espèce de chorégraphie proche des films de Bollywood, et il se dit je vais peut-être devenir réalisateur, et plutôt que devenir passif avec ce téléphone je vais devenir acteur, et je trouve ça très bien et je l'encourage à le faire.
Donc c'est fini la vie spirituelle, le monastère?
Non, il continue, il fait les deux.
Mais comment
il
fait les deux? Mais c'est l'objet de votre film. C'est ce qui le rend d'ailleurs drôle et humain, votre film.
Si on arrive à, enfin, il faut un temps pour tout. Simplement, l'idée, c'est que ce soit pas 15 heures par jour. C'est sûr que 15 heures par jour, je pense que personne n'en réchappe, quoi, et que ça a un côté tellement destructeur. Et je me suis retrouvé chez lui. Parfois, je l'ai pas filmé tellement c'était énorme. Enfin, je l'ai pas mis dans le film, mais il allait parfois voir sa mère et avec ses frères et sœurs. Sa mère, qui a, je sais pas, 75 ans, était seule à regarder le feu de bois et tous ses enfants étaient sur leur smartphone à 5000 mètres d'altitude complètement. Voilà. Donc, je suis pas sûr qu'ils sont mieux avec qu'ils n'étaient sans, quand même.
Mais on peut comprendre aussi leur soif de vouloir se connecter avec le reste du monde, Thomas Balmès. Les jeunes du Bhoutan.
Tout à fait. Et il est pas question de leur interdire quoi que ce soit, mais peut-être de commencer. Et pas seulement chez eux, mais aussi chez nous, à par exemple expliquer un peu ces phénomènes d'addiction à tous ces Snapchat, Instagram, Facebook, et comment...
WeChat,
etc. Et comment les concepteurs de ces sites, hein, exactement comme les fabricants de cigarettes à un moment donné, ont mis dans leurs produits quelque chose qui vous rend totalement addictif, avec des mécanismes extrêmement perfectionnés et qui développent des addictions vraiment de l'ordre, avec la même dureté que des gens qui sont addicts à des drogues dures.
Vous irez pas jusqu'à demander à ce que ce soit interdit, comme cela se fait dans quelques pays...
Pas du tout, mais je pense que c'est intéressant
de la région
qu'on le comprenne.
Dans les dictatures, ouais.
Non, mais pas du tout. Mais par contre, je pense que ça demande un minimum d'éducation. Qu'on leur explique. J'ai vu sur Netflix, dont je ne suis pas particulièrement fan, mais il y a un très bon documentaire qui fait parler d'anciens directeurs de toutes ces sociétés qui sont des repentis de tout ce système et qui témoignent de ce qu'on leur a demandé de faire et du côté extrêmement, extrêmement dangereux et exponentiel que ça provoque en termes d'addiction.
Sing Me a Song, votre film sort aujourd'hui, c'est aussi une manière de découvrir le Bhoutan ou ce village d'ailleurs isolé de ce pays, mais aussi de découvrir la culture pop du Bhoutan. On voit bien toutes les influences qui viennent d'Inde, qui viennent du Moyen-Orient.
Voilà, ils sont très très influencés par les films de Bollywood. Mm-hmm. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie culture locale de films d'époque, de comédies musicales, qui reprennent toutes les mythologies bhoutanaises et bouddhistes. Et donc, il y a une vraie industrie bhoutanaise de cinématographique avec quelques cinémas et qui marche très très bien. Donc, il y a eu ce souci du CNC local de privilégier et d'encourager la production pour pas se faire complètement déborder par le cinéma indien. Donc là, ils ont une vraie politique. Avec Internet et avec les smartphones, c'est plus compliqué à maîtriser et c'est plus compliqué à garder quelque chose sous contrôle. Mais en tout cas, en termes de cinéma, c'est assez extraordinaire comment il y a une vraie réflexion.
Et pour terminer, Thomas Balmès, comment les Bhoutanais ont réagi à votre film?
Je pense que, à part Pianki qui m'a accompagné et qui lui a un peu réfléchi à tout ça, je crois que c'est trop tôt encore pour qu'il y ait du recul sur ce que le film peut dire. Et donc je pense qu'il faudra quelques années. Et c'est aussi quelque chose de spécifique au bouddhisme qui est de se dire, de toute façon, on sera tout capable de digérer et on, il n'y a pas besoin de se réguler, quoi. Il y a quelque chose de très, une grande sérénité vis-à-vis de tout ça. Et donc, je pense qu'ils ont pris le film pour ce qu'il est et parce qu'il est avant tout une histoire. Chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est-à-dire que j'essaie avant tout de raconter une histoire. Toutes ces subtilités sur ce que je pense des écrans, je dirais c'est entre les lignes, mais donc ils l'ont vu pour ce qu'il est. C'est une histoire d'amour.
C'est un documentaire où vous avez demandé aux protagonistes de rejouer quelques scènes.
Alors, j'aurais absolument jamais demandé de rejouer quoi que ce soit. Par contre, j'ai utilisé toute la grammaire de la fiction pour en entourer la réalité. Ce qui fait que ça
c'est ce qui réussit d'ailleurs, voilà, dans votre film, voilà. Thomas Balmès.
Mais merci beaucoup.
Et merci d'être venu ce matin.
Merci.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Sing Me a Song de Thomas Balmès sort aujourd'hui au cinéma. Cette émission a été préparée avec le concours de Corinne Amar, réalisé comme tous les jours par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Edouard Rubinstein. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner au podcast de l'émission. On se retrouve demain et comme tous les jeudis, on parlera musique. Et demain, on parlera de Quincy Jones, de ses débuts et de son concert à Paris en 1960. Bonne matinée sur France Culture.
Mais tout qui boulait, tout tombe, tu boulot de l'ouïe. Mais tout qui boulait, tout tombe,